CCE, vous informer et vous donner la parole.
Bonjour Chaville, il est 8h. Comme ça peut arriver de temps en temps, je prends la main à la place de Jonathan de Nuit, qui est empêché pour les prochaines semaines. C'est moi, Jonathan Bord, autour de la table. Nous sommes avec trois chroniqueurs que vous connaissez maintenant très bien. Monique, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Eh bien, je vais continuer mes petites chroniques spéciales élections municipales en vous parlant aujourd'hui de l'organe exécutif de la commune, c'est-à-dire du maire et de ses adjoints.
Voilà, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui rêvent d'en être, donc c'est très de saison. Jean Barbard, de quoi vas-tu parler cette semaine ?
Bonjour à tous. Pendant que vous comparez le prix du beurre, certains comparent les prix des présidents et pas les camemberts. Alors on va faire un point sur la fiscalité mondiale.
Oui, ça c'est un beau programme. Et puis Clément, je crois qu'on va mettre mis en appétit.
Et oui, pour une fois, je vais parler de deux légumes d'un coup, les oignons et les échalotes, et puis une petite recette médiévale.
Voilà qui va donner du goût. Voilà, nous sommes début février 2026, Radio VCE, c'est parti.
Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
Alors Monique, comment se déroule l'élection du maire et de ses adjoints ?
Alors, le nombre d'adjoints au maire est déterminé dans une loi de 1982 entre au minimum un adjoint et au maximum, un maximum de 30% de l'effectif légal du conseil municipal, avec quelques possibilités supplémentaires dans les villes de plus de 80 000 habitants, sans que le nombre excède 10% de l'effectif légal du conseil. Alors, exemple, Chaville, 35 conseillers municipaux, au maximum pour les adjoints, 10,5 adjoints, soit 10 ou 11. Pour être maire ou maire adjoint, il faut évidemment être élu au conseil municipal.
Oui, ça vaut mieux.
Avoir plus de 18 ans et être de nationalité française. Autrement dit, on peut être conseiller municipal si on est ressortissant d'une nationalité européenne, mais on ne peut pas être maire ou adjoint au maire. Le maire ne peut pas cumuler ce mandat avec ceux de président du conseil régional ou président du conseil départemental, par exemple. Le maire est élu lors de la première séance suivant l'élection, donc c'est 5 jours, hein, max après l'élection, avec un scrutin secret uninominal majoritaire à 3 tours. Pour être élu, il faut avoir la majorité absolue au premier ou au second tour, ou la majorité relative au troisième. Dans les communes de plus de 1000 habitants, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes doivent comporter autant d'hommes que de femmes, ou avec un d'écart, hein, évidemment, si c'est 9 élus, ça fait 4 et 5. Tout le monde est élu pour 6 ans, la durée ordinaire des mandats, sauf période exceptionnelle, on en reparlera. Mais chacun est libre de démissionner à tout moment, après avoir adressé une lettre au préfet et après l'acceptation par ce dernier. En cas de faute, le maire et les adjoints peuvent être sanctionnés. Suspension d'un mois, révocation dans les cas graves par décret ministériel. Il existe aussi, il faut le savoir, des maires et adjoints honoraires. C'est une qualité conférée par le préfet à ceux qui ont exercé pendant un minimum de 18 ans. C'est sans avantage financier.
D'accord. Mais alors du coup, quelles sont les attributions du maire et de ses adjoints que les autres conseillers municipaux n'auraient pas ?
Les attributions du maire sont prévues par des textes, hein, à la différence du conseil municipal qui dispose d'une compétence générale de principe. Alors, le maire dispose d'une compétence générale en matière de gestion du personnel, ainsi que du domaine public et privé de la commune. Il dispose de la police des assemblées, assure le bon ordre des réunions du conseil municipal, formalité de séance, il anime et il dirige les débats, donne les tours de parole, met aux voix les délibérations. Il peut faire des rappels à l'ordre, suspendre les séances, faire respecter les règles de discipline parmi les élus et le public. Il exerce aussi une compétence exclusive en matière de police administrative qui couvre les activités de police en rapport avec la prévention des atteintes aux biens et aux personnes. Plus largement, il est responsable de l'ordre public, sécurité, tranquillité et salubrité publique. Ses pouvoirs s'exercent dans le cadre de pouvoirs de police générale. Il dispose aussi du pouvoir de police spéciale en fonction d'activités précises ou de situations particulières. C'est le cas, par exemple, dans les communes où il y a des activités nautiques ou des baignades, ou un certain nombre d'édifices, par exemple, qui menacent de s'écrouler. Tous les actes pris par le maire dans le cadre de ses activités de police peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. Alors, il dispose aussi d'attributions comme agent de l'État. Le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire sous l'autorité du procureur de la République en cas de besoin d'informations ou de renseignements, en cas d'infraction, par exemple. Ils exercent aussi des missions d'officier d'État civil, enregistrement des naissances, des décès, et ils officient lors des mariages. Sous l'autorité du préfet, là aussi, il est chargé, le maire ou les adjoints sont chargés de publier et exécuter les lois et règlements organisant les élections politiques ou des élections socio-professionnelles. Ils doivent aussi délivrer des certificats, des attestations diverses. Par exemple, l'attestation comme quoi on est bien inscrit sur les listes électorales. Et bien sûr, en sa qualité d'exécutif du conseil municipal, tout ce qui relève de la gestion de la commune.
Oui, on voit que c'est vaste, donc ça dépasse même la commune avec les fonctions d'État civil. Est-ce qu'il y a des règles précises pour ce qui concerne les délégations ? Parce qu'on se doute bien qu'ils ne sont pas tous spécialisés dans tout.
Voilà. Alors, le maire et les adjoints composent ce qu'on appelle la municipalité. Donc, c'est un organe collégial qui se réunit sous l'autorité du maire pour coordonner l'ensemble des délégations couvertes par les élus. La municipalité ne dispose pas de prérogatives juridiques particulières, donc elle ne peut pas prendre d'actes administratifs, mais c'est le lieu où il y a les discussions politiques, c'est le lieu de décisions qui sont ensuite présentées au conseil municipal. Le maire peut déléguer une partie de ses attributions aux adjoints ou à des conseillers municipaux délégués. Il peut retirer ses délégations à tout moment sans avoir besoin de justifier ce retrait. Lorsqu'il a retiré sa délégation à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans sa qualité de conseiller municipal. La seule qualité d'adjoint ne constitue pas une condition suffisante pour exercer des pouvoirs. Il faut que le maire ait accordé une délégation de fonction. Par exemple, pour s'occuper des écoles, par exemple, pour s'occuper de la voirie. C'est-à-dire qu'il découpe effectivement les responsabilités de la commune. Il peut aussi, le maire, attribuer quelques délégations de signature rigoureusement encadrées par la loi à des responsables de l'administration municipale.
Oui, comme beaucoup d'administrations, finalement, effectivement, tout le monde ne signe pas. Et alors, on en arrive peut-être à l'instant populiste. Non, plus sérieusement, est-ce qu'on fait ça pour l'argent ?
Non, on ne fait pas ça pour l'argent parce que, c'est... Alors, d'abord, l'enveloppe d'indemnité globale accordée pour les indemnités du maire et des conseillers et des maires adjoints ou délégués, ça dépend de la population de la commune. Bon, on sait que Chaville est dans la tranche de population entre 20 000 habitants et 49 999 habitants. La tranche est découpée comme ça. Donc, la loi fixe un cadre très précis. Les indemnités de fonction des élus locaux sont calculées par référence à l'indice brut terminal de la fonction publique. Cet indice est de 1027 points. Ça correspond à l'indice 853 majoré, soit 4110 euros bruts mensuels. L'indemnité du maire est fixée depuis le 1er janvier 2024 à 3699,47 euros bruts, soit environ 3000 euros nets. Et cette indemnité du maire, elle ne peut pas aller au-delà de 90% de l'indice égal à 1027 points. Pour les adjoints et les porteurs de délégation de fonction, dans la limite des taux maxima, c'est-à-dire 33% de l'indice, en gros, ça fait 1356,47 euros bruts, donc environ 1100 euros en net. Et à part l'indemnité du maire qui, sauf si lui-même dit qu'il veut moins que ça, le conseil municipal peut déterminer librement les indemnités allouées aux adjoints et conseillers municipaux. Mais tout le monde aura bien compris qu'il y a un taux maximal qui est fixé et il y a une enveloppe globale. Voilà.
Merci Monique. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir que c'est une indemnité, c'est pas un salaire.
Une indemnité, hein, parce que... c'est absolument pas un salaire.
Voilà, c'est pas un métier
non,
en
non.
fait.
Non, c'est une indemnité.
Merci pour toutes ces précisions. C'était le troisième point d'information sur l'instance municipale. Dans un contexte électoral, c'est toujours très intéressant. On va passer à la séquence de Jean Barbard.
De tout et de rien avec Jean Barbard.
Madame, messieurs, à votre avis, qu'est-ce qui circule le mieux aujourd'hui sur la planète ? Les idées ? Non. Les personnes ? De moins en moins. Non, c'est l'argent des ultra-riches. En 2026, la richesse des ultra-riches augmente 3 fois plus vite que l'économie réelle. Concrètement, les ultra-riches ne vivent plus dans un pays, ils vivent au-dessus des États, avec fiscalité à la carte et valises prêtes. Résultat, des services publics sous-financés, des États endettés et une démocratie qui commence à sérieusement tousser. Alors le chiffre à un bal, à votre avis, combien rapporterait un impôt mondial minimum de 2% sur les milliardaires ?
Plusieurs.
Mondial, plusieurs. Ouais. Excellente réponse.
Plusieurs milliards de d'euros.
1 000 milliards de 1 000 sabords, non ?
Peut-être.
Vu la vitesse d'enrichissement des milliardaires depuis 2017 en particulier, ça doit être vraiment beaucoup, beaucoup. Ouais.
Eh bien, au niveau mondial, on parle de 200 à 250 milliards de dollars par an. Oui, chaque année, sans toucher aux classes moyennes, sans augmenter la TVA, juste en posant une taxe pour ceux qui payent le moins d'impôts que tout le reste du monde. Alors pourquoi la concentration des capitaux est un risque ? Parce qu'à partir d'un certain seuil, l'argent achète le temps, la loi et l'influence. Les ultra-riches sont surreprésentés en politique, ultra-audibles, ultra-consultés, et quand le pouvoir se concentre trop, la démocratie se dilue. Et là, roulement de tambour, certains ultra-riches demandent eux-mêmes plus d'impôts. À Davos, au Forum économique mondial, 400 millionnaires et milliardaires expliquent dans une lettre ouverte que sans impôts solides, pas d'infrastructure, pas de stabilité, pas de marché et donc pas de business. Et puis il y a l'IA qui concentre la valeur comme jamais. Peu d'entreprises, peu d'actionnaires, des milliardaires en gains non taxés. Pendant ce temps, le travail humain disparaît, les cotisations baissent et l'État regarde le vide fiscal arriver à grande vitesse. Là, on ne parle plus d'idéologie, on parle de survie budgétaire. Enfin, localement, on fait quoi ? On s'intéresse à ce qu'il se passe avec l'argent public, notamment en soutenant la diversité politique, pour qu'elle mette son nez dans les comptes. Parce que l'impôt le plus efficace, c'est celui qui construit la ville de demain.
Merci beaucoup, Jean Barbard, c'est très juste.
Et juste, on peut rajouter qu'on n'a pas besoin d'une ville du futur, mais on a besoin d'un futur pour nos villes.
Ah, excellent.
Allez, un petit peu, on finit par un petit peu de slam. Merci, Monique. Tout de suite, la rubrique à table.
À table avec Clément Chassin.
Alors, aujourd'hui, les oignons et les échalotes. Alors, en fait, j'ai dit que c'était deux légumes. En fait, ils sont apparentés. C'est mon cousin. En latin, l'oignon, c'est allium cepa, et l'échalote, c'est allium cepa aggregatum.
Ah, voilà. Mais tout est dans l'aggregatum pour la différence.
Tout est dans l'aggregatum, voilà. Et dans la famille des alliums, on a aussi le...
Bah, l'ail.
Le poireau, effectivement, voilà. Donc, dans cette grande famille, voilà. Et voilà. Alors, rien que pour les oignons, il y a... plus de 1000 variétés recensées au catalogue européen des espèces et variétés. Voilà, donc c'est vraiment c'est une famille où on trouve énormément de choses. Alors, l'oignon, c'est vachement bien parce que ça se conserve bien. Et donc, on peut l'emmener sur les bateaux pour lutter contre le scorbut. Voilà.
C'est pas mon premier usage.
C'est pas le premier usage et c'est un peu passé de mode. Maintenant, on a des frigos. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce que, en fait, c'est pas de saison. Exceptionnellement, je parle d'un légume qui n'est pas de saison. Mais comme ça se conserve, voilà, ça se récolte plutôt à l'automne. Et puis après, en fait, on peut en trouver quasiment toute l'année, ça se conserve très, très bien.
On en trouve toute l'année, je crois.
Ah oui, oui. Bon, sinon, en préparant ma chronique, alors j'ai vu effectivement. Je suis tombé sur des articles sur Allium cepa, tout ça. Alors, j'ai vu que Allium cepa, on en trouve en homéopathie. J'ai vu qu'on en trouve en aromathérapie, en phytothérapie. Alors, forcément, Allium cepa, ça fait quand même beaucoup plus classe que nous dire qu'ils vont nous fourguer des gélules d'oignon. Hors de prix. Voilà. Bon, alors, par contre, désolé, ça soigne pas grand-chose. C'est un légume, donc c'est quand même riche en vitamines, en minéraux, ça fait du bien, voilà, ça soigne le scorbut. Voilà, mais bon, on va pas se leurrer, les gélules d'allium cepa, c'est de la poudre aux yeux. Bref.
Et peut-être que ça fait moins pleurer, cela dit.
Et ça fait pas pleurer. Bref, je vais vous expliquer comment on fait des oignons ou des échalotes rôties. Alors, j'appelle ça rôti ou au four, enfin bref, voilà. En fait, je vais vous raconter déjà comment je suis arrivé à cette recette. Alors, je crois que les algorithmes écoutent cette émission, parce que, du coup, on m'a proposé une vidéo d'une chaîne d'histoire qui parlait des oignons rôtis, tout ça. Alors, moi, je me suis précipité dessus. Voilà. Un historien vachement intéressant qui expliquait donc qu'effectivement, on cultive l'oignon depuis des milliers d'années, que ça pousse très bien, alors surtout dans les sols peu humides, que ça se conserve, voilà, c'est formidable tout ça, et que du coup, effectivement, avant, il y avait plein de recettes d'oignons, qu'on en mangeait beaucoup, plus que maintenant. Maintenant, on l'utilise pour faire un fond de sauce, voilà, mais avant, c'était vraiment un plat en soi. Et donc voilà, et du coup, on en mangeait beaucoup, et notamment, ça permettait de passer les périodes de disette. Voilà, donc c'était vachement bien. Voilà, puis, forcément, est arrivé ce bon monsieur Parmentier, qui revient régulièrement dans mes chroniques, et il a tout fait, ce monsieur. Voilà. Et donc, avec ses pommes de terre, et ben, effectivement, ça a un peu remplacé la place de l'oignon. Voilà. Du coup, on en parle un peu moins, on en cuisine un peu moins. Bon, bref, je reviens à la vidéo que j'ai vue, là, voilà, qui m'a été proposée. Et donc, il y avait un historien du Moyen-Âge donc, qui parlait d'une recette d'oignon. Voilà, alors, recette médiévale, hein, donc aucun poids, aucun temps de cuisson. Vous mettez les oignons sous la cendre. Enfin, bon, voilà. Alors, l'historien malin, il s'est dit, tiens, je vais essayer de faire ça chez moi dans mon four. Et apparemment, c'est bon. Alors, moi, je vois une bêtise à faire, je le fais. Eh ben, ça marche. Oh. Donc, je vais vous donner la recette. Vous allez voir, c'est super bon. Donc, vous mettez un oignon entier. Mais alors, vraiment, hein, avec la plure, vous embêtez pas. Vous le prenez, vous le mettez directement. Alors, pas directement dans le four. Vous mettez une plaque en dessous. Alors, moi, je les ai mis dans un plat à tarte, là. Voilà, parce que ça rend du jus. Et alors, ça rend un jus... costaud.
Ça
sent
mauvais dans le four après.
Oui, c'est ça. Ça peut te pourrir ton four. Moi, mon plat à tarte dans lequel j'avais mis les oignons, je l'ai mis à tremper pendant 3 jours après. Voilà, bon. Donc, vous mettez ça dans le four, 180-200 degrés pour 45 minutes, 1 heure, grosso modo. Voilà. C'est tout. c'est vraiment la recette tout. Ultra simple. Après, vous les sortez. Vous avez juste, donc, vous coupez le pied, vous coupez le cul de l'oignon, là. Vous enlevez, du coup, la pelure. Et le cœur est fondant. Alors, ça peut se manger froid, ça peut se manger tiède en accompagnement, voilà. Donc, ça, c'est pour faire de l'oignon. Pour de l'échalote, même chose. Comme c'est plus petit, en 20 minutes, maximum une demi-heure, c'est cuit. Mais voilà, c'est super simple et c'est vachement bon. C'est fondant, c'est goûtu, c'est presque un petit côté sucré. C'est voilà, très agréable. Voilà, donc des fois, il suffit de retrouver des trucs simples, traditionnels, pour manger bien, bon, des produits locaux et finalement pas cher.
Ah, c'est effectivement désarmant de simplicité comme recette. Hein. On prend le légume, on le met au four et on attend. C'est magnifique.
C'est ça.
Voilà. Écoutez, on va laisser nos auditeurs faire l'expérience. Et puis, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous. C'était Jonathan Bord avec toute l'équipe. À la semaine prochaine.
Salut.